Bonjour à tous, comment allez-vous? Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'Expatlang Understand Native French. Moi c'est Jean-Baptiste et sur ce podcast je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé français au quotidien et qui est souvent différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles. Et le sujet d'aujourd'hui sera le friganisme, partie 2. Bonjour à tous les amis d'Expatlang, j'espère que vous allez tous très bien et que si vous fêtez Noël, vous profitez de cette période de préparation et de décoration. Je n'arrive pas à croire que nous venons de passer une année ensemble avec ce podcast et cet épisode sera le dernier de cette année. En effet, le podcast d'Expatlang va faire une petite pause. Je suis en train de travailler sur un nouveau projet pour vous proposer des ressources encore plus intéressantes sur mon site internet et je vais avoir besoin d'un peu de temps pour tout mettre en place. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouvera très bientôt pour de nouvelles conversations. J'ai déjà très envie de vous parler de ce nouveau projet, mais je préfère garder la surprise pour le moment. Est-ce que vous vous souvenez du sujet dont nous sommes en train de parler en ce moment? La semaine dernière, je vous ai parlé du friganisme, qui consiste à récupérer dans les poubelles les produits alimentaires qui sont encore parfaitement consommables. La semaine dernière, c'est mon amie Léa qui a partagé avec nous son expérience. Pour elle, le friganisme est un acte politique. Elle considère qu'il n'est pas acceptable de jeter de la nourriture alors qu'il existe encore des gens qui n'arrivent pas à se nourrir à leur faim. C'est aussi un acte écologique. En effet, pour produire des denrées alimentaires, il faut les transformer, les emballer et les transporter jusqu'à nos supermarchés. Ainsi, lorsqu'on les jette à la poubelle, ce n'est pas seulement de la nourriture que l'on jette, mais aussi toute l'énergie et les matières premières qui ont servi dans le processus de fabrication. Dans cet épisode, nous allons continuer cette conversation sur le friganisme, mais cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'aspect légal de cette pratique. À votre avis, est-il autorisé de récupérer les produits qu'un commerçant a mis à la poubelle? Et si vous, à la maison, vous jetez votre vieux canapé et que quelqu'un le récupère dans la rue devant chez vous, est-ce que c'est une opération légale? C'est ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Par ailleurs, Léa nous a préparé quelques-unes de ses anecdotes les plus croustillantes, c'est-à-dire les plus amusantes, concernant les réactions des personnes dans la rue qui la voient faire de la récup. J'espère que vous allez aimer cet épisode et que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à le préparer. Et si c'est la première fois que vous écoutez ce podcast, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de l'épisode. Nous y analyserons quelques expressions et travaillerons un petit point de prononciation. Vous êtes prêts les amis? C'est parti! Est-ce que tu as déjà vu dans les rues des dégustations friganistes? Je sais qu'il y a certaines associations qui cherchent à sensibiliser les personnes à la qualité des poubelles, finalement, et aussi attirer bien évidemment l'opinion sur le scandale du gaspillage alimentaire. Et ils organisent des buffets en disant, bah voilà, venez goûter, et ils disent, voilà tout ce qu'on a pu préparer avec ce qu'on a récupéré des poubelles. Est-ce que tu as déjà vu ce genre d'opération?
Alors, non. Par contre, c'est des choses que j'ai déjà faites avec des copains, des copines où on montait des buffets pour un événement, pour récupérer un peu de sous pour une asso et tout, donc nous on le faisait et quand les gens mangeaient et qu'on leur disait que c'était prix libre alors le prix libre donc on met ce qu'on veut dans la boîte, rien si vraiment on a rien ou sinon si on, enfin voilà, vraiment le prix libre c'est on choisit quel prix on met sur ce qu'on vient de déguster. Et on leur disait, de toute façon, c'est pour nous, c'est pas spécialement à perte. Hein. Honnêtement, tout ça vient de la récup, donc de la poubelle ou des fins de marché. Mmh.
Est-ce que depuis que tu as commencé le friganisme, tu as vu des changements peut-être chez certaines enseignes ou des commerçants qui jouent le jeu et qui essayent de limiter le gaspillage dans leur commerce ou dans leurs attitudes?
Honnêtement, non.
Pas vraiment?
Non. Mmh. Moi, à chaque fin, là, quand je repère mes spots de récup, selon où j'habite... franchement, c'est toujours l'opulence au niveau des poubelles.
Et peut-être au niveau des opérations à l'intérieur du magasin, de mettre en avant certains produits talés ou de mettre en avant des produits un peu avec des dates de péremption, soit limites, soit dépassées pour pouvoir les vendre moins cher.
Bah, il me semble qu'il y en a certains qui le font. Certains magasins bio, ils vont essayer d'avoir une certaine éthique par rapport à ça, mais... Mais franchement, les grands magasins, les grandes enseignes qu'on connaît par cœur, je ne vois pas de différence. Hein, c'est... Alors, Après, il y a aussi le type de la méthode de récup qu'on peut faire. Par exemple, je parlais de Paris. Paris, c'est simple. Les poubelles sont devant, sur les trottoirs. À partir du moment où elles sont sorties, elles n'appartiennent plus au magasin. C'est le bien public. Donc, on peut rien nous dire si on fouille dedans. On n'a pas le droit de nous arrêter, de nous en empêcher. Je sais qu'il y a des gens qui disent « Oui, une fois, il y a un policier municipal qui a commencé à nous menacer. » Mais vous lui sortez la loi, comme quoi, mais de toute façon, il n'a aucun droit de vous menacer. Vous êtes dans votre bon droit.
C'est-à-dire qu'en France, si quelque chose est à la poubelle, il fait partie du domaine public, c'est ça?
C'est ça. Ok. Ça n'appartient plus à la personne. Si elle l'achetait à la poubelle, c'est qu'elle l'achetait à la poubelle, ça ne lui appartient plus.
Donc et je sais aussi que la loi a évolué sur le sujet de la récupération dans les poubelles, parce que pendant une période, certains supermarchés voulaient empêcher les gens de récupérer dans les poubelles et mettaient des produits chimiques, peut-être de l'eau de Javel ou du savon. Et je crois que la loi a changé aussi de ce côté-là.
Elle a interdit de le faire. Donc ça, une fois, c'est arrivé avec des amis, on était en train de récupérer dans une poubelle. Alors pour le coup, on était rentré dans la cour, mais la cour était accessible. Il n'y avait pas eu besoin d'escalader une grille ou quoi que ce soit. Et quand on a commencé à prendre ce qu'on trouvait dedans, un employé est sorti, nous a dit d'arrêter.
Vous
avez continué ? Regardé en rigolant, on a fait « bah non », donc on a continué. Il a dit « oui, mais de toute façon, on a mis des produits dessus, enfin, de toute façon, on le sentirait, et si vous avez véritablement fait ça, on appelle la police et on vous dénonce. » Donc, en fait, évidemment, il bluffait. Et il savait très bien qu'il n'avait pas le droit de le faire, qu'il y avait une loi qui était passée, donc il est rentré dans le magasin sans demander s'il en reste. Et puis, bon, après, nous, voilà, on n'a pas cherché à jouer la provoque non plus. On a pris tous nos trucs et on est parti.
Et vous êtes parti?
Non, je sais que j'ai eu des amis qui ont déjà été emmenés en garde à vue pour vraiment juste les embêter. Et les copains en question qui ont fait une nuit en garde à vue et ensuite se sont vus coller un procès, se sont fait relaxer, mais ils n'ont même pas eu besoin d'être défendus par leur avocat. C'est le procureur lui-même qui a dit « Non mais moi, je n'envoie personne en prison.
Oui, » Pour
avoir récupéré dans les poubelles. Je ne mets même pas une amende pour ça. Je vois même pas pourquoi ce procès a lieu. Donc moi, je me dis, dans mon coin, au pire, des flics me chopent.
Tu sais que ça ira pas très loin.
Ouais, éventuellement, ils me reprennent mes poubelles, ou sinon, ils me disent, bon, allez, passez votre chemin, et qu'on vous y reprenne plus. J'en sais rien, mais je pense pas que ce soit les choses qui les intéressent.
Ils ont peut-être autre chose à faire, quoi qu'il arrive.
Ouais. Voilà. Ouais. Mais vraiment, moi, j'ai jamais eu de problème. Mmh. Bon, là, je disais, voilà, soit à Paris, donc sur le trottoir. En général, c'est plutôt bien. Enfin, à Paris, j'ai l'impression que c'est plutôt bien accepté. J'ai jamais eu trop de problèmes. Donc, des fois, une fois, je me rappelle, un type sortait de la boulangerie, me voyait prendre des belles baguettes et tout, et me dit, non, mais attendez, je vais vous en acheter une belle toute neuve. Et je fais, mais non, mais c'est, de toute façon, c'est un acte politique aussi pour moi. Vous vous rendez compte ce qu'il jette et tout. Et il fait, oh, c'est merveilleux ce que vous faites. Est-ce que je peux vous embrasser?
Oh, formidable.
Il m'a fait un bisou sur la joue.
Enfin, c'est génial.
Une fois, un autre, c'était un jeune, un étudiant. Il me voit pareil, c'était une poubelle d'un magasin bio. Pareil, il jetait des produits qui coûtaient mais 4 euros, 5 euros, mais par paquet des steaks de soja, des trucs vraiment chers, du 7 ans, mais par paquet de 10. Et puis, il me voyait récupérer ça et il me dit « Non, mais je peux vous aider. Vous savez, j'ai des bons McDonald's. Si vous êtes dans la nécessité, madame. » Je dis « Mais non, c'est politique. »
Politique.
Et je dis « Mais à mon avis, t'es bon McDo, t'en as vraiment plus besoin que moi. Ou alors, fais comme moi, si tu veux. »
Récupère-les.
Et non, en fait, ça lui mettait tellement de mauvaise conscience qu'il a tenu absolument à m'offrir un cornet de frites. Je fais « Bon, d'accord, t'es très gentil. »
C'est de l'amour gratos encore.
Oui,
hein.
Je lui dis « C'est très gentil, mais je préfère à la limite que tu le donnes à un SDF, à un migrant qui est dans la misère, parce que moi, c'est pas le cas. Et en plus, c'était quelque chose. Enfin, j'en rencontrais notamment des migrants sur la place de la République à l'époque de Nuit Debout, et qui demandaient s'ils pouvaient, parce qu'on en ramenait des récup sur Nuit Debout. Alors, ils demandaient s'ils avaient le droit de manger. Alors, on disait, bah, bien sûr, mange, si t'as faim. Et puis, je disais, mais même, tiens, je te donne les adresses où tu peux trouver par toi-même et tout. Il y a tout le temps de la nourriture. Va là-bas, préviens d'autres personnes, mais videz-les, parce que à moi toute seule, je n'arrive pas à les vider. Donc, moi, je suis pour le partage de plans. Il y a des
gens qui gardent leur plan secret.
Ah oui, qui gardent très jalousement leur plan. Moi, ça m'énerve parce qu'on le sait que les spots, il y a trop pour une personne. C'est ridicule.
À moins d'en faire un commerce. Sinon, c'est perdu, de toute façon.
Bah oui, c'est perdu. Alors, il y en a, ils disent, oui, si on file les plans, il y en a qui vont arriver, qui vont tous saloper. Et puis après, c'est terminé, le plan, il est fichu.
Mais je pense que dans une ville comme Paris, il y en a pour tout le monde. Hein.
Mais oui, enfin, c'est pas tout le monde qui va s'amuser à renverser la poubelle par terre, à faire tout un bazar exprès pour qu'ensuite...
À la rigueur, ce serait même une bonne chose, parce que ça signifierait qu'il y aurait beaucoup moins de gâchis si les gens prenaient à bras-le-corps les poubelles de Paris et de toutes les villes et allaient récupérer des choses. Ça signifie que, voilà, il y aurait beaucoup moins de gâchis, quoi qu'il arrive.
Bah, au moins, alors, s'ils pouvaient les vider, ce serait bien. Quand elles sont renversées et que ça salit tout le trottoir et que ça fait du travail en plus pour les éboueurs, bah déjà, c'est pas sympa pour les éboueurs, ils n'ont pas que ça à faire. Et en plus, ce qui se passe, c'est que le gérant du magasin, il va garder sa poubelle dans une cour fermée et il va la sortir juste au moment où le camion poubelle. Et donc, tout le monde est perdant dans l'histoire.
Bien sûr.
Donc,
bien
ça
sûr,
ne sert à rien de faire ça. Hein.
Quelle est la chose la plus surprenante que tu aies trouvée dans une poubelle à manger?
Alors, c'était pas à manger, c'était à boire une fois, c'était des packs de bière. Il y avait une bière
une
bouteille qui avait été cassée, qui avait éclaboussé un peu d'autres packs. Alors, il y avait un pack qui était un peu collant, mais franchement, toutes les autres bouteilles étaient nickel. Et d'autres packs, ils étaient à peine collants, enfin, il y avait à peine des traces. Et j'en avais rapporté, je crois, l'équivalent de 4 packs. Il n'y avait plus de place dans le frigo.
Ouais.
Et une fois, c'était un caddie de canettes de 50 centilitres de bière aussi. Un caddie complet.
Incroyable. Dans le supermarché à côté de chez moi, je ne sais pas si c'est quelque chose d'officiel, je ne sais pas s'ils ont véritablement le droit de faire ça, mais en tout cas, le matin, ils mettent à disposition des caisses de légumes invendues et invendables. Donc il y a des caisses avec un kilo de pommes, des oranges, des salades, des paniers de salades entiers, et ils vendent une cagette à 1 euro. Sauf qu'en fait, personne ne vérifie ce qu'il y a dans les cagettes, et les gens peuvent se composer leur propre cagette, ils passent à la caisse avec, et ils peuvent remplir de légumes pour 1 euro la cagette qu'ils récupèrent ensuite à la maison. Mais je ne l'ai jamais vu ailleurs, donc je pense que c'est peut-être une opération de ce supermarché en particulier.
Alors, j'ai déjà vu un petit supermarché, c'est une enseigne aussi qui est assez connue, en tout cas sur Paris. Bon, par contre, la cagette était déjà composée, on n'avait pas à recomposer la cagette.
Ah oui, là, c'est vraiment un libre service et personne ne regarde.
Oui, après, voilà, là, je pense qu'il y a quelques chose de la part des employés du magasin. Bon, c'est un arrangement, on fait comme ça, ça marche, et tant que personne ne dit rien, on commence à creuser si c'est fait de manière bien légale, carrée et tout. Et en général, ça passe, parce que qui va s'occuper à dénoncer ça? Tout le monde y
trouve. Et puis ça rend service à beaucoup de gens, finalement.
Oui,
donc,
c'est un peu spécial, mais bon, bah après, le jeu, franchement, en vaut la chandelle.
Mmh. Effectivement, pour 50 euros par mois, pour pouvoir manger à sa faim des légumes et des fruits frais, plutôt une bonne idée.
Voilà. Alors, donc, du coup, si tu veux tester mes bonnes recettes friganes... il y a des patates douces qui cuisent au four, saupoudrées donc d'oignons hachés. Et ben tout ça a été récupéré il y a quelques jours à l'arrière d'une grande enseigne.
Et ben c'est parti. Moi je veux bien, si tu m'invites à ta table frigane, je viens avec plaisir.
Je te convie à cette dégustation.
Et ben avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Merci et puis bon appétit.
Et bon appétit.
Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com, dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Vous trouverez le lien en description. Sans plus attendre, nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, un petit point de culture. Dans la conversation, Léa a mentionné un mouvement social qui a marqué l'histoire de la France. Le mouvement Nuit Debout. Avez-vous déjà entendu parler de ce mouvement? Avant toute chose, nous allons réécouter cette partie de la conversation pour nous mettre dans le bon contexte. Écoutez l'extrait suivant.
Une fois, un étudiant, il me voit pareil, c'était une poubelle d'un magasin bio. Pareil, il jetait des produits qui coûtaient mais 4 euros, 5 euros, mais par paquet, des steaks de soja, des trucs vraiment chers, du 7 ans, mais par paquet de 10. Mm-hmm. Et puis il me voyait récupérer ça et il me dit non mais je peux vous aider, vous savez j'ai des bons McDonald's, si vous êtes dans la nécessité madame, je mais non c'est politique. Et je fais mais à mon avis t'es bon McDo, t'en as vraiment plus besoin que moi, ou alors fais comme moi si tu veux.
Récupère-les.
Et non en fait il avait, ça lui mettait tellement de mauvaise conscience qu'il a tenu absolument à m'offrir un cornet de frites. Je fais bon d'accord t'es très gentil.
C'est de la bouffe gratos
oui,
encore. Hein.
Je lui dis c'est très gentil mais je préfère à la limite que tu le donnes à un SDF, à un migrant qui est dans la misère, parce que moi c'est pas le cas. Et en plus c'était quelque chose. Enfin, j'en rencontrais notamment des migrants sur la place de la République à l'époque de Nuit Debout, et qui demandaient s'ils pouvaient, parce qu'on en ramenait des récup sur Nuit Debout. Alors ils demandaient s'ils avaient le droit de manger. Alors on disait bah bien sûr, mange, c'est ta faim. Et puis je disais mais même tiens, je te donne les adresses où tu peux trouver par toi-même et tout. Il y a tout le temps de la nourriture. Va là-bas, préviens d'autres personnes, mais videz-les, parce que à moi toute seule, je n'arrive pas à les vider.
Nuit Debout est un mouvement social qui a commencé en mars 2016. À cette époque, le gouvernement français était en train de discuter un projet de loi visant à améliorer la compétitivité économique des entreprises françaises. Cependant, une partie de la population a vu, dans ce projet de loi, une manière d'affaiblir les règles du droit du travail en France et craignait que les travailleurs en deviennent les victimes. Ainsi, des groupes d'opposition politique, des syndicats, des associations et de nombreux individus ont décidé de s'opposer à cette loi en occupant des lieux publics dans les grandes villes. Voilà pourquoi ce mouvement s'appelle « Nuit debout ». Les manifestants étaient invités à rester debout le plus longtemps possible dans les lieux publics, de jour comme de nuit, en symbole de protestation. À Paris, c'est sur la place de la République que se sont installés les manifestants. Cependant, au fil du temps, de nouvelles revendications sont venues s'ajouter au désir initial de s'opposer au projet de loi sur le travail. Le mouvement Nuit Debout a accueilli de nouveaux groupes et s'est progressivement imposé comme un mouvement de protestation contre les institutions politiques françaises et plus généralement contre le système économique. Travailleurs, étudiants ou encore migrants ont joint leurs forces pour demander plus de justice sociale. Vous pouvez imaginer que, pour pouvoir occuper un lieu aussi longtemps, les participants ont dû s'organiser. Sur la place de la République, des campements ont été installés et un service de nettoyage a été mis en place. Des infirmeries étaient aussi à disposition des manifestants et, bien évidemment, différents services de restauration pour les nourrir. C'est donc dans ce contexte que Léa a mis à disposition ses talents de friganiste. Elle a aidé le mouvement en y apportant, entre autres, de la nourriture qu'elle avait récupérée et qu'elle a distribuée sur place aux personnes qui en avaient besoin. Aujourd'hui, même si le mouvement n'est pas complètement éteint, il n'est plus aussi intense qu'en 2016. Au lieu de ça, il prend plutôt la forme de manifestations ponctuelles en réaction à des décisions ou des affaires politiques. Dans une certaine mesure, le mouvement des Gilets jaunes, qui a déferlé sur toute la France en octobre 2018, a été une nouvelle forme de Nuit debout, tout autant par la manière d'occuper les lieux que par la grande diversité des revendications de leurs participants.
Une fois, un autre, c'était un jeune, un étudiant, il me voit pareil, c'était une poubelle d'un magasin bio. Pareil, il jetait des produits qui coûtaient mais 4 euros, 5 euros, mais par paquet, des steaks de soja, des trucs vraiment chers, du 7 ans, mais par paquet de 10. Et puis il me voyait récupérer ça et il me dit « Non mais je peux vous aider, vous savez j'ai des bons McDonald's, si vous êtes dans la nécessité madame. » Je fais « Mais non, c'est politique. » Et je fais « Mais à mon avis, t'es bon McDo, t'en as vraiment plus besoin que moi. Ou alors fais comme moi si tu veux. »
Récupère-les.
Et non, en fait, il avait, ça lui mettait tellement de mauvaise conscience qu'il a tenu absolument à m'offrir un cornet de frites. Je fais « Bon d'accord, t'es très gentil. »
C'est de la bouffe gratos encore.
Oui,
hein.
Je lui dis « C'est très gentil, mais je préfère à la limite que tu le donnes à un SDF, à un migrant qui est dans la misère, parce que moi c'est pas le cas. » Et en plus c'était quelque chose, enfin j'en rencontrais notamment des migrants sur la place de la République à l'époque de Nuit Debout, et qui demandait s'il pouvait, parce qu'on en ramenait des récups sur Nuit Debout. Alors il demandait s'il avait le droit de manger. Alors on disait bah bien sûr, mange, c'est ta faim. Et puis, je lui disais, mais même tiens, je te donne les adresses où tu peux trouver par toi-même et tout. Il y a tout le temps de la nourriture. Mmh. Va là-bas, préviens d'autres personnes, mais videz-les, parce que à moi toute seule, je n'arrive pas à les vider. Mmh.
Nous en avons maintenant terminé avec ce petit point de culture et nous allons tout de suite passer à l'analyse des expressions. Deuxièmement, l'expression « sans demander son reste ». Aujourd'hui, nous nous intéressons à une expression que Léa a utilisée dans la conversation, l'expression « sans demander son reste ». Écoutez tout d'abord cet extrait.
Donc ça, une fois, c'est arrivé avec des amis, on était en train de récupérer dans une poubelle. Alors pour le coup, on était rentré dans la cour, mais la cour était accessible. Mmh. Il n'y avait pas eu besoin d'escalader une grille ou quoi que ce soit. Et quand on a commencé à prendre ce qu'on trouvait dedans, un employé sorti nous a dit d'arrêter. On
a regardé
en rigolant, on a fait bah non, donc on a continué. Il a dit oui, mais de toute façon, on a mis des produits dessus, enfin, de toute façon, on le sentirait, et si vous avez véritablement fait ça, on appelle la police et on vous dénonce. Mmh. Donc en fait, évidemment, il bluffait. Et il savait très bien qu'il n'avait pas le droit de le faire, qu'il y avait une loi qui était passée, donc il est rentré dans le magasin sans demander son reste, et puis...
Dans cet extrait, Léa nous donne l'exemple d'un employé de magasin qui n'acceptait pas que l'on vienne faire de la récup dans ses poubelles. Cette personne a essayé de dissuader les friganistes en leur faisant croire qu'ils avaient mis des produits chimiques sur les produits jetés. Cependant, voyant que les personnes face auxquelles il se trouvait savaient parfaitement que cette pratique était illégale, il n'a pas insisté et est entré dans son magasin. Pour illustrer cette dernière action, Léa dit « Donc, il est rentré dans le magasin sans demander son reste ». L'expression « sans demander son reste » est utilisée pour décrire le fait qu'une personne arrête de résister, de s'opposer ou d'argumenter et abandonne un combat. Cela peut être un combat physique comme un combat moral. À l'origine, l'expression « demander son reste » signifiait « réclamer de l'argent que l'on nous doit ». Par exemple, si vous avez vendu quelque chose à crédit à l'un de vos clients et que ce dernier ne vous a pas payé la totalité du montant, on dit qu'il est en reste, c'est-à-dire qu'il vous doit encore de l'argent. Ainsi, si vous demandez votre reste, cela signifie que vous lui demandez cet argent qu'il n'a pas encore payé. Avec le temps, on a utilisé l'image de l'argent pour des situations où l'on cherche à gagner quelque chose. En effet, l'argent a beaucoup de valeur et en général, on n'aime pas en perdre. Ainsi, lorsqu'on se trouve dans une situation où l'on cherche à gagner quelque chose d'important pour nous, comme un combat physique ou une bataille politique, le reste représente ce que nous souhaitons gagner. Ainsi, partir sans demander son reste signifie que l'on renonce complètement, qu'on abandonne l'idée de gagner ce que nous voulions. Nous abandonnons le combat. Nous allons maintenant voir comment utiliser cette expression dans une conversation. En général, on utilise cette expression pour décrire le résultat d'une action. Par exemple, si je raconte une mésaventure qui m'est arrivée dans le métro, je peux dire « La semaine dernière, j'ai surpris un pickpocket dans le métro en train d'essayer de me voler mon portefeuille. J'ai crié très fort pour attirer l'attention et il a eu tellement peur qu'il est parti en courant sans demander son reste. » Dans cette situation, le fait de crier a fait que le pickpocket a complètement abandonné l'idée de voler votre portefeuille. Il n'a pas insisté et il est parti sans faire d'histoire. Ou alors, imaginez que votre voisin soit particulièrement incorrect et gare toujours sa voiture devant votre garage, si bien que vous ne pouvez pas sortir votre propre voiture. Vous pouvez dire « Ce matin, j'étais vraiment en colère et j'ai appelé la police ». Quand mon voisin a vu les policiers, il a immédiatement bougé sa voiture sans demander son reste. Comme vous le voyez, on utilise généralement cette expression dans un contexte de conflit que l'un des participants abandonne sans faire d'histoire, sans insister.
Donc ça, une fois, c'est arrivé avec des amis, on était en train de récupérer dans une poubelle. Alors pour le coup, on était rentré dans la cour, mais la cour était accessible. Il n'y avait pas eu besoin d'escalader une grille ou quoi que ce soit. Et quand on a commencé à prendre ce qu'on trouvait dedans, un employé sorti nous a dit d'arrêter. On
l'a regardé
en rigolant, on a fait bah non, donc on a continué. Il a dit oui, mais de toute façon, on a mis des produits dessus, enfin, de toute façon, on le sentirait, et si vous avez véritablement fait ça, on appelle la police et on vous dénonce. Donc en fait, évidemment, il bluffait. Et il savait très bien qu'il n'avait pas le droit de le faire, qu'il y avait une loi qui était passée, donc il est rentré dans le magasin sans demander s'il en reste, et puis...
Nous en avons maintenant terminé avec l'expression « sans demander son reste », et nous allons tout de suite passer à la prononciation. Troisièmement, la prononciation. Prononcez la préposition « de » à l'oral. La préposition « de » est souvent très difficile à reconnaître dans les conversations en français oral. En général, elle est complètement mangée, c'est-à-dire qu'on ne la prononce pas complètement. Et la lettre « d » peut même être prononcée de manière complètement différente. Pour vous en rendre compte, écoutez par exemple l'extrait suivant et essayez de distinguer comment je prononce la préposition « de ».
Et je crois que la loi a changé aussi de ce côté-là.
Elle a interdit de le faire.
Vous avez entendu? Ici, j'ai dit « et je crois que la loi a changé aussi de ce côté-là ». Ici, il se passe deux choses très intéressantes. Le « e » du mot « de » n'est plus prononcé. Et ensuite, la lettre « d » lorsqu'elle est prononcée avec le mot suivant, « ce », ne se prononce plus « d » mais « t ». Ce côté. Je répète, ce côté.
Et je crois que la loi a changé aussi de ce côté-là.
Elle a interdit de le faire.
Nous allons maintenant travailler la prononciation de cette phrase. Répétez chaque partie de la phrase après moi jusqu'à la prononcer de manière fluide. Et je crois. Et je crois que la loi. Et je crois que la loi a changé. Et je crois que la loi a changé aussi de ce. Et je crois que la loi a changé aussi de ce côté-là. Et je crois que la loi a changé aussi de ce côté-là.
Et je crois que la loi a changé aussi de ce côté-là.
Elle a interdit de le faire.
Voilà, nous en avons maintenant terminé avec la prononciation. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités du français oral pour cette conversation, je vous invite à regarder la transcription en français oral sur le site internet www.expatlang.com. Et voilà, nous sommes maintenant à la fin de l'épisode 26 du podcast d'Expatlang, Understand Native French, le dernier de cette année 2022. Je voudrais que vous sachiez que ça a été un immense plaisir pour moi de créer ces épisodes pour vous et j'espère sincèrement que vous les avez appréciés. Mais rassurez-vous, nous nous retrouverons bientôt pour de nouvelles conversations sur encore plus de sujets. Et sachez que je suis toujours à votre disposition pour répondre à vos questions par email à l'adresse contact@expatlang.com. Si vous avez aimé ces épisodes, je vous serai sincèrement reconnaissant de lui attribuer 5 étoiles sur iTunes Podcast et sur Spotify, parce que cela aidera de plus en plus de personnes à découvrir ces épisodes et à apprendre le français oral. Je vous remercie d'avance pour cela. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année et le meilleur pour cette année 2023 qui commence. Que cette année vous apporte bonheur, succès dans tous vos projets et tout spécialement dans votre apprentissage du français. J'ai hâte de vous retrouver pour de nouvelles aventures et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis.